Salut, c'est Lou.
Salut, c'est Anaïs.
Deux journalistes de West France, passionnés de séries.
Dans Plateau Séries, on vous partage nos coups de cœur séries et on échange parfois avec leurs créateurs ou leurs acteurs.
Des séries cultes aux dernières sorties, on vous offre les meilleures sur un plateau.
Qu'on les regarde sur notre bonne vieille télé ou sur les plateformes de streaming, on vous parle de tous les écrans, tous les supports.
Retrouvez Plateau Séries sur le mur des podcasts sur le site westfrance.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plateau Série, votre podcast West France dédié aux séries télé. C'est Lou et comme d'habitude, je suis en compagnie de ma BFF du boulot, c'est Anaïs. Salut Anaïs, Ouhou, comment ça va?
Salut Lou, ça va et toi?
Ben, ça va super bien, on a un invité un peu exceptionnel pour ce numéro exceptionnel parce qu'il nous fallait une encyclopédie, que dis-je, une bible sur la série dont nous allons parler. Aujourd'hui, on va parler de Plus belle la vie et à cette occasion, on reçoit donc un journaliste de chez West France qui connaît bien le sujet et c'est Tony. Salut Tony.
Salut Lou, salut Anaïs et puis salut à tous.
Est-ce que je t'ai pas mis la pression en te présentant là déjà?
Un petit peu.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos amis?
Oui, alors, donc je m'appelle Tony Fabry, moi je suis journaliste à la rédaction détachée de Sablé-sur-Sarthe, donc en Sarthe, et j'ai 28 ans, bientôt 29, et j'ai commencé à regarder Plus belle la vie quand j'étais ado, je dirais, dans les débuts de la série, pas tout à fait au premier jour, mais dans les premiers mois ou dans les premières années de ta série.
Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu logique parce que tu es jeune. Déjà, je me rends compte que tu es jeune, donc ça me fait un petit peu mal au cœur. pour moi, hein, pas pour toi, évidemment, tu as de la chance. La série date de 2003 ou 2004, si je me souviens bien. Et moi,
30 août 2004.
Et effectivement, j'étais déjà ado moi-même quand la série avait commencé. Donc, t'aurais été tout petit, je pense, pour commencer la série. Sinon, il y a une petite particularité dans ce podcast, c'est que toi, Anaïs, tu n'as vu aucun épisode de Plus belle la vie.
Exactement, d'où la présence de Tony ici. Et pour une fois, contrairement à ce qu'on peut attendre, c'est vous deux, messieurs, qui connaissez très bien Plus belle la vie, qui assumez ou pas de regarder Plus belle la vie.
J'assume moi, entièrement.
Bah voilà, Tony, t'assumes un peu moins.
Il n'ose pas répondre.
On reviendra là-dessus justement, ouais, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu un seul épisode et maintenant j'ai plus de 4000 épisodes de retard, donc j'avoue que je ne sais pas si je vais me lancer à un moment donné, mais à vous de me convaincre de regarder cette série.
Écoute, on peut faire, tu sais, comme le podcast là, Ami, je crois qu'il s'appelle Ami, ouais, sur les deux copines qui ont regardé Friends ensemble, enfin une qui connaissait et l'autre qui l'a fait. On peut tester avec Plus belle la vie si tu veux, on va se faire les 4000 épisodes.
4565 épisodes, ah, exactement, ça fait beaucoup quand même.
On va être parti pour 10 ans de podcast comme ça, c'est très très bien. Pourquoi ça t'a jamais intéressé, Plus belle la vie, toi Anaïs?
En fait, je pense qu'au départ, quand c'est sorti, c'était une période où moi je regardais plus trop ce genre de feuilleton. Et puis ça passait à une heure où moi je regardais pas du tout la télévision à cette heure-là, quoi. Et donc une fois que ça s'est lancé, déjà au début je pense que j'avais mal identifié la cible du truc, comme beaucoup, hein. J'imaginais que c'était un peu pour les vieux, un truc qui était pas du tout dans mon style. Et donc j'ai pas du tout regardé au début. Et puis après, quand j'ai vu que c'était feuilletonnant, que c'était tous les jours, que je pouvais pas suivre, j'ai jamais suivi après, quoi.
Attends, tu pouvais même en plus, si tu regardais sur les chaînes belges, parce que j'habitais dans le nord et tout, donc forcément j'avais accès aux chaînes belges, tu pouvais voir les épisodes avec deux jours d'avance, donc t'étais en avance sur les intrigues, donc tu pouvais te la péter un petit peu.
C'est encore possible là, d'ailleurs, ça, Lou, aujourd'hui. Hein.
C'est vrai.
Il y a des sites qui proposent de regarder les épisodes en avance grâce aux chaînes suisses et belges, effectivement, où la série est diffusée avec deux jours d'avance, ouais.
Alors Tony, tu vas avoir la lourde tâche d'essayer de résumer Plus belle la vie. Enfin, si tu dois présenter Plus belle la vie à quelqu'un qui n'a jamais vu, comme
ça,
Anaïs, qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Alors déjà que c'est un feuilleton quotidien, hein, qui passe tous les soirs, qui est assez ancré dans le réel, je dirais, puisque typiquement, quand on passe le bac dans la vraie vie, les jeunes personnages lycéens de Plus belle la vie passent également le bac. Hein. C'est un exemple pour bien comprendre l'ancrage dans le quotidien des gens. Donc c'est une série qui est en phase avec son époque. C'est une série qui, à la base, raconte la vie d'un quartier marseillais, un quartier fictif, hein, puisqu'on est dans des décors, dans un studio, hein, du côté de la Belle de Mai à Marseille. Il y a également pas mal de plans en extérieur malgré tout, hein, parce que c'est quand même un joli coin, assez cosmopolite. Et d'ailleurs, dans la série aussi, il y a beaucoup de mélange, hein, de personnages de différents âges, de différentes cultures, de différents milieux sociaux aussi. Donc c'est un petit peu ce mélange au sein de ce quartier qui est raconté. Et c'est une pelote qui est comme ça tirée... depuis un peu plus de 15 ans, où on mêle les histoires, les intrigues amoureuses forcément, mais également les intrigues policières, puisque il y a un commissariat aussi dans ce quartier fictif, et puis les intrigues un peu plus insolites aussi, voilà, parce que il y a aussi une dimension un petit peu humoristique, disons, dans la série. Donc voilà, c'est le quotidien de ces habitants du quartier. Il y a des nouveaux visages qui arrivent régulièrement, il y a des visages qui partent, il y a beaucoup de passages dans ce quartier et il se passe énormément de choses.
À ça, si on devait résumer, il y avait beaucoup eu un confinement, hein. je me souviens, ouais, du confinement à l'époque, avant le vrai confinement, enfin le vrai confinement, avant le confinement du coup dû au Covid. Il y a eu un épisode, plusieurs épisodes d'ailleurs, sur un confinement de Marseille avec un virus, où il y a eu la mort d'ailleurs de personnages principaux. Il y a eu le diable aussi qui était passé de passage au Mistral, effectivement.
Il y a certaines intrigues qui, effectivement, tueurs en série, il y en a eu beaucoup. Et il y a aussi effectivement certaines intrigues qui frôlent et même parfois qui touchent au fantastique, hein. Effectivement, tu parlais du diable Vassago, ouais. qui a sévi au Mistral, donc ça touche un peu parfois au fantastique, effectivement, avec des histoires de fantômes ou d'apparitions, voilà, il y a eu comme ça des intrigues qui touchaient au fantastique aussi.
Bon, et ça paraît complètement fou, quoi. Et vous, c'est quoi qui a fait que du coup vous avez eu envie de regarder ou de continuer la série, parce que là le pitch est un peu incroyable, tout en étant très basique, puisque tu l'as dit, Tony, c'est une série qui suit juste le quotidien de certaines personnes. Donc qu'est-ce qui vous a fait accrocher au truc, en fait?
Alors moi, je me souviens, j'ai commencé la série au premier épisode. Je suis un fan de la première heure. Alors je me suis arrêté des années après, mais j'ai regardé pendant plusieurs années. Ce qui fait que je suis pas très à jour sur les dernières intrigues, même si je suis un petit peu ce qui se passe. Genre, ah tiens, qu'est-ce qu'il est devenu un tel personnage. C'est comme un vieil ami que tu ne croises plus, mais t'as envie de savoir un peu ce qu'il devient dans la série. Et au tout début, c'était quand même des intrigues qui étaient assez classiques. Et c'était pas une période où la série était vraiment un phénomène, parce qu'il y a un moment où elle est vraiment devenue un phénomène. Moi, je le classerais avec l'arrivée du premier tueur en série. Ça a vraiment été l'événement déclencheur, je dirais. Donc le corbeau, le premier corbeau. Je ne vais pas dévoiler son identité au cas où, si vous voulez vous refaire les premiers épisodes. Mais on se doute que c'est un des personnages de la distribution principale, mais on ne sait pas lequel exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fonctionne exactement comme un roman policier. Tu sais que le coupable... et dans la série, mais tu sais pas exactement qui ni comment. Et ça, c'était vraiment intéressant. Mais au tout début, c'était vraiment des intrigues assez classiques. Genre, j'ai perdu mon sac, on m'embête à l'école, on a une facture
c'est ça
à payer,
qui a fait,
machin.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pas accroché au départ, je crois. Je me disais, mais quel est l'intérêt de regarder ça? Enfin, c'est une vie quotidienne, quoi.
Il y a la force de l'habitude. Moi, j'avoue que j'ai pas un souvenir aussi précis que Lou sur le moment où j'ai commencé à regarder la série. Je sais que c'était le soir à la télévision avec mon petit frère à côté de moi sur le canapé, je dirais, et mes parents pas loin. On a dû tomber un peu par hasard sur France 3 parce que la télévision était souvent allumée à la maison à cette heure-là, et on a peut-être dû entendre parler qu'il y avait une série qui avait commencé, et voilà, je sais plus exactement dans quel contexte on a atterri là-dessus, mais c'est un petit cercle vicieux, c'est-à-dire quand tu commences à mettre le doigt dedans, il y a toujours un cliffhanger à la fin. On n'a pas parlé de la construction des épisodes, mais ces épisodes d'une vingtaine de minutes, hein, qui se terminent toujours par un cliffhanger, hein, et donc il y a cette notion de suspense à la fin de l'épisode qui donne quand même envie de revenir le lendemain. Pour voir comment va évoluer l'intrigue, généralement ce cliffhanger final, elle est sur l'intrigue principale, sur l'intrigue policière qui va tenir en haleine comme ça les spectateurs pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, effectivement, le temps qu'on découvre toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place petit à petit, ces intrigues de polar dont parlait Lou. Et donc c'est aussi c'est cette force de l'habitude, parce que il y a beaucoup de personnages, donc dans le lot, on peut s'identifier à certains personnages, on peut en prendre en grippe et en adoration d'autres. Et c'est aussi la force de l'habitude, je dirais, qui fait qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus comment vont évoluer ces personnages qui, petit à petit, quand on se met à regarder la série, effectivement, font un petit peu partie de la famille autour de la table le soir. Au moment de la diffusion de l'épisode.
C'est comme tu le dis, Tony, c'est vraiment une série qu'on peut regarder en famille, justement. Il y a un côté vraiment intergénérationnel. T'as vraiment tout le monde qui est représenté, comme on l'a dit. Et moi, je pense qui fait que tu restes, c'est les personnages. Et c'est le fait qu'ils restent aussi longtemps, en fait, dans la série. Tu grandis vraiment avec eux. Il y a des personnages qu'on a vus qui étaient des enfants, en fait, au début de la série. Et puis là, tu les vois grandir, avoir un métier, avoir une famille, se marier, avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment, comme le dit Tony, c'était l'impression d'avoir une famille. Et effectivement, t'en as pour absolument tous les goûts. Donc, t'as des gens qui sont très portés sur la tradition, sur la religion et ceci, cela, et qui parfois même en deviennent assez, assez caricaturaux. Je pense évidemment à Sylvie Flep, j'oublie le nom de... Ah, Myrta. Myrta, évidemment, Myrta Torres. Et t'as des personnages un peu plus déjantés, comme Luna, qui est mon personnage préféré, qui est arrivé un petit peu après les autres.
Qui est la fille de Myrta, hein, d'ailleurs.
Qui est la fille de Myrta, exactement. Mm-hmm. Qui est jouée par Anne Dessy, que j'ai pu interviewer, qu'on va retrouver du coup à la fin de cet épisode, et qui nous racontera un petit peu comment elle a vécu toutes ces années avec Plus belle la vie. Qui est un personnage qui va être très différent, et t'as cette dynamique en fait qui joue entre la mère et la fille, et le fils en plus de Luna, qu'elle a pas connu. Donc t'as plein de liens qui se créent déjà entre les personnages, et tu peux vraiment t'attacher et te reconnaître dans certains persos. Et je sais que voilà, moi, Luna, ça a été un personnage que j'ai adoré suivre, et je sais que je suis parti aussi à cause de sa première grossesse, en fait. Donc quand le personnage est parti, donc première grossesse de l'actrice, le personnage est parti, donc j'ai arrêté de suivre Plus belle la vie parce que mon personnage fétiche n'était plus là. Donc je pense que ça crée vraiment un lien affectif du fait de les retrouver de manière quotidienne, en fait, au final. Donc c'est ça aussi qui fait que
ça s'inscrit dans ton quotidien, comme disait Tony, quoi. C'est une habitude aussi que tu as avec eux, finalement.
En fait, c'est marrant parce que je compare... Alors, attention, toute proportion gardée, peut-être des gens qui vont se dire « Mais de quoi il parle ?» Je comparais un petit peu ça à Game of Thrones. C'est-à-dire dans le sens où je me souviens très bien, quand on regardait Game of Thrones, dès qu'il y avait un nouvel épisode, tout le monde en parlait et tout le monde voulait savoir. Nous, à l'époque, dans la cour du lycée et tout, on regardait Plus belle la vie, et le lendemain matin, cours de récré, « Non, mais t'as vu ce qui s'est passé hier et tout ?»« T'as vu Rudy,
Ninon ?» C'est vrai, mais j'ai connu un petit peu, j'avais quelques potes qui regardaient Plus belle la vie, et c'est vrai qu'il y a une époque où on débriefait un petit peu les épisodes le lendemain.
Plus belle la vie
a été des séries les plus regardées en streaming avec Game of Thrones, je crois, dans les années 2010, sur une année, je crois, Plus belle la vie était parmi les séries les plus regardées en streaming avec Game of Thrones en France. Hein, c'est pour dire comme quoi la comparaison sur certains points, on peut la faire quand même malgré tout.
Oui, c'est incroyable, comme tu disais, c'est toutes les générations en plus. Et j'ai l'impression que même si la série elle a aujourd'hui 18 ans, tu as toujours des petits jeunes qui continuent de la regarder ou qui la découvrent maintenant, et ça a réussi à traverser les âges et les époques. Mais vous, à l'époque, quand vous la regardiez là, au lycée ou au collège ou je ne sais quoi, c'était des filles plutôt qui la regardaient, ou il y avait aussi des mecs, il y avait une espèce de tabou à dire qu'on la regardait, ou pas du tout?
Tabou, je ne sais pas trop si c'était un tabou. Moi, c'est vrai que c'était plutôt des copines qui regardaient, donc j'en discutais beaucoup aussi avec ma mère. Enfin, c'était un truc aussi international. C'est ça qui était cool, en fait, c'est que tu pouvais vraiment ça amenait de la discussion, parce que t'as plein de sujets sociétaux en fait qui sont évoqués, la drogue, l'alcoolisme, l'homosexualité, la transidentité. Enfin, t'as vraiment plein de sujets, et des fois ça faisait même polémique. Enfin, je me souviens, t'avais y a un plan à trois à un moment dans un épisode, et du coup hop, ça y est, scandale. le Poppers aussi, voilà, enfin t'avais plein, il se passe toujours plein de choses qui fait que t'as toujours des gens qui sont un petit peu choqués, mais c'est bien aussi, enfin tu te dis sur une chaîne publique à une heure de grande écoute, c'est bien aussi d'amener ces sujets-là et d'en discuter en fait, d'en faire quelque chose, parce que c'est jamais gratuit en fait, c'est ça qui est bien aussi dans cette série. Mais alors,
c'était la première série quotidienne à montrer un baiser entre deux hommes, ça c'était entre Thomas et puis Nicolas, donc ça c'était en 2005 je crois, quelque chose comme ça, et en 2013 il y a eu aussi le premier mariage homosexuel entre le même Thomas et je crois que c'était également
Gabriel,
ouais c'est ça, c'était 2 mois après la loi, après le passage de la loi mariage pour tous de Christiane Taubira, donc pour le coup c'était un exemple aussi marquant d'une série qui est totalement presque en avance même sur les débats de société.
Ah bah, puis ils sont vraiment dans leur époque, parce que je me souviens que par exemple pour les élections présidentielles, ils enregistrent certaines scènes en double, suivant que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, un peu comme ouais. Les guignols de l'info faisaient aussi leur sketch en double au cas où, et ça permettait comme ça voilà de vraiment de répondre au maximum à l'actualité, et ça c'est aussi fascinant de retrouver absolument tout ce qui se passe en vrai dans ta série. Mais moi, je l'ai pas trop vécu comme un tabou. Mais pour rebondir sur la question d'Anaïs, Tony, toi, comment tu le vis ? Parce que c'est vrai que tu le caches un peu encore aujourd'hui, même que tu aimes bien Plus belle la vie.
Donc au lycée, moi, je crois qu'au lycée ou peut-être plutôt au collège, mais c'est plutôt de ouais, il y a eu des potes gars hein, qui regardaient aussi. Qui regardait aussi Plus belle la vie, mais oui, il y a un petit tabou à dire qu'on regarde Plus belle la vie. Il y a un côté un peu plaisir coupable en fait avec cette série qui effectivement a quand même une image, a longtemps eu en tout cas une image de avec ses décors en carton pâte, avec ses comédiens dont on critiquait un peu le jeu grossier, ses intrigues cousues de fil blanc. Donc elle avait pas une image branchée comme les séries de Canal+, par exemple, les séries françaises de Canal+. Côté série française, voilà, c'est à part Canal+, c'était difficile de dire ouais je regarde une série française quoi. De la même façon qu'on va pas, enfin je vois assez peu de monde revendiquer qu'ils sont fans de Camping Paradis ou Joséphine Ange Gardien, et donc Plus belle la vie était un peu dans cette catégorie là, et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu ringard, un peu gnangnan de regarder Plus belle la vie, donc c'est vrai que il y a un petit côté ouais plaisir coupable, je dirais moi, pour moi un peu ouais, il y a un peu un petit tabou quand même là-dessus, faut pouvoir l'assumer en société.
Ah, on va t'aider avec ce podcast, ça va te libérer.
Tout le monde saura maintenant, Tony.
Mais je dirais qu'il y a plusieurs façons aussi de regarder la série. Déjà, est-ce que tu la regardes en linéaire le soir à la télé à la même heure ? En l'occurrence, moi c'est pas le cas. Je la regarde en streaming en fait hein, sur certains sites un peu quand j'ai le temps en fait hein, c'est un petit moment Plus belle la vie généralement c'est en mangeant par exemple sur les journées de boulot il y a pas mal de personnes qui font ça, il y en a qui le regardent le matin aussi par exemple, il y en a qui regardent ça le matin au petit déj avant de partir au boulot parmi les fidèles du programme, donc c'est Tu le regardes pas forcément au même moment de la journée, puis tu le regardes pas forcément avec le même regard. Enfin, il y a la vision où t'es vraiment à fond dans l'histoire, où t'es très intéressé par les intrigues amoureuses ou policières, et puis il y a le côté un peu second degré aussi où tu gardes un esprit un peu distant en disant oh, là par contre là sur le coup ils en font un peu trop. Ouais, j'essaie d'avoir ce recul là. Je suis pas toujours à fond dans l'histoire, mais je regarde un peu au second degré aussi. C'est les intrigues amoureuses par exemple, c'est vraiment pas ce que je préfère quoi. C'est plutôt le côté polar, suspense qui m'intéresse un peu quoi. Mais là-dessus, disons que j'ai cette petite distance. Je suis pas à fond dans le suivi des personnages et qui couche avec qui ou qui se marie ou qui se trompe avec qui. Ça, c'est pas le truc que je préfère dans Plus belle la vie.
Ah, c'est marrant parce que
d'un point de vue,
c'est la mise au point que je voulais faire.
moi, c'est ce que je préfère. Moi, c'est ce que je préfère en revanche. Hein, vraiment, les histoires d'amour, j'ai vraiment trouvé que c'était toujours le plus marrant en fait. Parce que c'est toujours t'es team Intel ou team Intel, tu vois, et tout. Ah non, mais pourquoi il s'est mis avec elle, il était mieux avec elle et tout, eux deux, faut qu'ils se remettent ensemble et tout. Je trouve ça vachement drôle, en fait. Je trouve que c'est le côté le plus marrant, en fait, de Plus Belle la Vie. C'est parce que, ouais, les histoires d'amour, tout le monde a un petit peu fait le tour du quartier, hein, donc c'est ça aussi qui est sympa.
J'ai envie de dire, au bout de plus de 4000 épisodes, on est d'accord que tout le monde a couché avec tout le monde et il s'est passé tout et n'importe quoi, non?
Bah, en fait, c'est impossible
de tenir, sinon.
T'as quand même des gens qui partent et qui reviennent, tout ça, donc ça crée un petit peu quand même de la nouveauté, et puis ça permet aussi de renouveler aussi les générations, parce qu'il faut, bah, les jeunes grandissent, donc il faut des nouveaux jeunes aussi à chaque fois. Mais non, en fait, c'est pas, y a pas tant de choses, c'est pas si irréaliste que ça au niveau amoureux. Quand tu regardes sur la longueur, tu dis oui, effectivement, tel personnage a déjà été en couple avec un tel, un tel, un tel, un tel, oui, d'accord, mais en même temps, y a 20 ans de... quasiment 20 ans de série, donc en 20 ans, oui, c'est normal que tu aies 4 partenaires de longue durée, tu vois. Donc au final, c'est pas si irréaliste que ça. Le truc où moi j'ai un peu plus de problèmes, je dirais, entre guillemets, c'est vraiment quand ils mettent des choses surnaturelles, les visions, les trucs comme ça. Enfin, c'était un peu. J'avais un petit peu de mal. Même l'idée, donc Vasago, le diable carrément et tout. Enfin, c'était. Je sais pas, ça, je trouve que ça fait, là pour le coup, ça fait vraiment too much, en fait, pour le coup. Déjà les sales killers qui arrivent à hypnotiser les victimes, tout ça, c'était un peu extrême. les gens amnésiques, machin, bon, pourquoi pas, mais le surnaturel, c'était les seules fois où je disais, ah, là je trouve que ça va un petit peu trop loin pour un feuilleton qui veut vraiment être ancré dans la réalité. C'était et encore,
oui, c'est étonnant, finalement.
Je te parle d'un feuilleton où on déverse un virus sur une ville pour pouvoir, enfin bref, on fait des tests grandeur nature dans des villes comme ça, et puis ça, c'est, enfin, on imagine des choses un petit peu bizarres aussi.
C'est le côté un petit peu, il y a un petit côté surréaliste qui fait qu'on doit rester dans l'univers de la série, et parce que si c'était, comme le sous-entend Anaïs, si c'était purement réaliste et qu'on suivait vraiment le quotidien très classique du gars qui va mettre ses poubelles le soir, qui va, enfin, vraiment, que c'est, je pense qu'on se serait quand même un petit peu ennuyé. Il faut qu'il y ait une dose un petit peu de rocambolesque dans ce quartier, parce que sinon les téléspectateurs se seraient, je pense, plus rapidement délaissés et détournés de la série malgré tout. Donc c'est vrai que c'est quand ça devient un peu caricatural, on le ressent, et c'est le côté, tu vois, le regard second degré aussi. Je pense que tu l'as un peu, Lou, sur certaines intrigues où tu te dis, oh non, mais là ça va trop loin, là par contre, j'ai déjà compris, c'est cousu de fil blanc. Donc mais pour autant, on y retourne quand même, on y retourne. Je crois, peut-être que le spectateur de Plus Belle la Vie est un peu mazo.
Ouais, mais tu vois, je trouve qu'au niveau des intrigues, ils arrivent à faire des choses réalistes qui sont vraiment passionnante à suivre, avec le fil rouge pendant très longtemps de Phénicie, donc qui est la méchante entreprise qui est dirigée par Charles Frémont, qui est le méchant historique un petit peu de la série, mais qui est en même temps gentil, méchant, gentil, enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais pour que le personnage soit attachant, il y a un petit peu cette ambivalence, mais qui va toujours tout faire pour, c'est un peu Gargamel, tu vois, qui veut vraiment embêter, en fait, les habitants du Mistral d'une manière ou d'une autre, avec des magouilles financières. Et ça, ils le font pas mal, le coup des magouilles financières et des gens un petit peu véreux. Je pense aussi au couple Mercœur, qui avait un petit côté un couple de séducteurs pour arriver à leur fin, tout ça. Et je trouvais ça assez fascinant. Je trouvais que c'était des intrigues qui étaient beaucoup plus réalistes et intéressantes pour autant, parce que t'as ce côté manipulation, en fait, finalement, qui se fait avoir, comment ils vont essayer un petit peu de séduire les gens. Et je trouve que c'est celles-là, vraiment, ces intrigues qui sont les plus intéressantes. Enfin, moi, que je trouve les plus passionnantes à suivre, parce que tu vois vraiment, t'as un plan, en fait, surtout. Là où les intrigues surnaturelles, c'est un peu, peu plus cousu de fil blanc, je trouve, par moment.
Les intrigues que tu cites, Lou, elles sont anciennes, hein.
Bah, je sais, mais parce que je sais bien, mais parce que
elles ont 10 ans, je pense.
comme je t'ai dit, je suis de manière beaucoup plus erratique actuellement, ouais. Donc je prends juste des nouvelles, en fait, finalement, et les grandes intrigues plus récentes.
Ouais, je sais pas si c'est le jeu un peu de la nostalgie, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les intrigues étaient mieux avant.
Ah, c'est peut-être parce que
peut-être qu'on est un peu plus blasé, et puis peut-être aussi tout simplement que les scénaristes ont un petit peu plus de mal.
C'est dur, hein, de se renouveler.
Voilà, et puis il y a les concurrents aussi sur sur les autres chaînes. Enfin voilà, c'est peut-être plus difficile de se démarquer, de trouver des choses qui des arches scénaristiques qui n'auraient pas encore été explorées.
Ouais, ça veut dire que toi tu penses que c'est le bon moment pour s'arrêter, que c'est une bonne décision que ça s'arrête, ou t'aurais bien re-signé pour encore 5-10 ans?
Ouais, non, moi j'étais prêt à continuer de suivre. Certes, c'est vrai que peut-être que ça s'essoufflait un petit peu, effectivement, en termes de ressorts scénaristiques. Ils allaient davantage peut-être chercher dans le passé des personnages, mais hors de la série, pour tout de suite nous parachuter une histoire comme ça, un peu artificielle, pour continuer à nourrir le truc. Mais non, moi je considère pas que la série avait fait le tour, parce que il y a un socle commun, il y a une base de personnages qui sont un peu les habitants historiques du quartier, mais autour de cette base là il y a beaucoup de nouveaux personnages qui ont été introduits, qui parfois sont devenus des piliers, mais qu'il y a beaucoup de personnages qui ont été introduits comme ça et qui sont arrivés en fait à chaque nouvelle intrigue à son lot de personnages, et mine de rien ils ont réussi quand même pendant là 18 ans à renouveler ces intrigues là à ramener des personnages. Donc je me dis que quelque part il y aurait sûrement moyen de continuer à faire vivre ce quartier là et c'est difficile de se projeter en fait sur la fin de Plus belle la vie, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps que ça existe qu'on a l'impression, et c'est ce que disaient les fans. J'avais fait un papier il y a pour les 15 ans où j'avais interviewé des fans purs et durs vraiment, et qui en fait ils me disaient, mais on a l'impression que Plus belle la vie ça a toujours existé en fait, quoi. Ils avaient du mal à se projeter sur une vie, une télé sans Plus belle la vie, quoi. C'est là, ça fait partie du décor, presque de la famille, et c'est difficile de se projeter pour eux sur l'arrêt de Plus belle la vie, quoi.
Mais c'est même difficile d'imaginer un arrêt. Enfin moi typiquement je pensais vraiment, enfin c'est un peu naïf effectivement, mais que ce serait une série qui serait toujours là en fait, finalement, par essence, parce que même si les audiences n'étaient pas forcément ce qu'elles ont été du coup à une époque, mais ça a existé pendant tellement longtemps. Puis t'as cet exemple, je sais plus le titre, mais t'as une série au Royaume-Uni qui dure depuis un feuilleton qui doit depuis...
Coronation Street.
Exactement, ah oui. Qui dure depuis des années, et tu te dis, enfin, ça fait partie de la famille, ouais, complètement, ça fait partie du décor, et même si je regardais moins, je voulais vraiment pas que ça s'arrête. Enfin, il y a aussi un côté, il y a une partie de ma vie qui s'arrête quelque part avec tous ces personnages, ces milliers d'épisodes que j'ai pu regarder. Donc c'est, ouais, je trouve ça presque bizarre que ça s'arrête, et un peu injuste en fait, je pense. C'est triste.
Oui. En même temps, comme vous dites, enfin, si j'en crois à ce que vous dites, c'est effectivement difficile d'arrêter une série quand elle est autant ancrée dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont pas tous mourir demain. Enfin, comment tu clôtures toutes ces intrigues? C'est impossible, parce que c'est la vie. Donc, c'est un peu difficile de mettre un terme à absolument tout et de se dire, allez, c'est fini, là, on arrête et demain, il n'y en aura plus.
C'est vrai que ça va
être
dur.
Je me demande un petit peu comment ça va se finir, d'ailleurs. C'est vrai que c'est les fins de série, c'est souvent très, très observé, très, très commenté. Là, la fin d'une série quotidienne où il y a beaucoup de personnages, on va pas, j'imagine qu'ils vont pas tous les faire mourir. Il y aurait pas une météorite qui viendrait s'écraser sur le
Mistral.
C'est la fin du monde en fait.
Mistral, je ne
non,
pense
mais,
pas.
Mais justement,
il y aura un prime en tout cas. Il y a un prime là au mois de juillet, mais c'est l'avant-dernier. Donc il y aura un dernier prime avant le tout dernier épisode qui est a priori programmé le 18 novembre, à vendredi, donc un vendredi soir à 20h45. Il y aura
grosse
plus
déprime.
Rien. je ne sais pas ce que va nous réserver le dernier prime. Est-ce que ce sera vraiment dans les tout derniers jours et une espèce d'apothéose où effectivement, je sais pas, il y a des morts, il y a des gens qui changent de vie complètement. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. Ou est-ce qu'ils vont tout simplement dire ça s'arrête à l'instant T et en fait il y a des choses qui seront en suspens parce que peut-être que Plus belle la vie aura une seconde vie sur une autre chaîne, sait-on jamais.
Ouais.
Ça peut être une parenthèse qui pourrait être ouverte, mais bon.
Ça serait bien. Moi, je vois bien. Je crois que c'est une vieille intrigue d'ailleurs qui devait être à propos de ça. Ce serait genre le rachat du quartier du Mistral, enfin la vente de l'ensemble des immeubles, parce qu'il y aura quelqu'un qui veut construire, je sais pas, genre un centre commercial ou un complexe, je sais pas quoi. Et genre la symbolique, tu vois, de on détruit le Mistral et du coup la série doit s'arrêter parce que le quartier emblématique de la série finalement ne va plus exister. Et ça pourrait potentiellement être, alors c'est une fin triste évidemment, mais je vois pas non plus je vois pas faire un happy end généralisé où tout le monde est en couple et heureux et tous les problèmes sont résolus et il y a mystérieusement plus du tout de tueurs en série à Marseille, parce qu'apparemment c'est un vivier de tueurs en série. Mais ouais, je les vois bien faire quelque chose de symbolique sur le quartier du Mistral. Donc pourquoi pas une destruction symbolique du quartier, alors peut-être pas par une météorite, effectivement, encore que, hein, on sait jamais, effectivement, Tony, peut-être que tu as une prémonition comme Luna, tu vois des choses.
Non, moi je pense qu'ils vont se garder une porte ouverte pour au cas où, comme tu disais Tony, ce soit racheté par autre chose. Aujourd'hui c'est l'ère du streaming, peut-être qu'une plateforme va vouloir s'en emparer et la prolonger pour conquérir aussi de nouveaux spectateurs et relancer la machine. Tout est possible, quoi. Donc, à mon avis, ils vont pas tuer tout le monde.
La société de production, la société qui produit Plus belle la vie, qui s'appelle Newen, a été rachetée en 2015, si je dis pas de bêtises, par TF1. Et TF1, les dirigeants ont déclaré que voilà, il y a une intérêt pour cette marque Plus belle la vie, même si effectivement l'audience aujourd'hui c'est 2,5 millions, 2,7 millions là sur la saison qui vient de s'écouler 2021-2022, alors que c'était quasiment à 7 millions au peak time. Au milieu fin des années 2000, mais peut-être que TF1, ouais, sur une chaîne du groupe, pourquoi
ou sur
pas
Salto.
sur la TNT ou sur Salto, faire continuer. Après, faut voir en termes de, ça fait quand même travailler à peu près 600 personnes au niveau du studio, des comédiens, tu vois. Est-ce qu'une diffusion sur Salto permettrait de que tout le monde rentre dans ses frais, ou alors est-ce qu'il ferait une version un peu altérée de Plus belle la vie, une espèce d'ersatz avec seulement quelques personnages ou un spin-off, un truc. Il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes, hein, j'ai envie de dire, effectivement, et peut-être que la fin de la série laissera aussi plusieurs portes comme ça ouvertes
pour la suite. Ouais.
Réponse dans quelques mois, en tout cas pour l'avenir de Plus belle la vie. Merci beaucoup Tony de nous avoir éclairé de tes lumières sur le sujet. Anaïs, est-ce que ça t'a donné envie du coup de découvrir Plus belle la vie?
Écoute, je ne promets pas de regarder les 4500 et quelques épisodes, ça me paraît quand même beaucoup.
Faut au moins l'arrivée de Luna, il faut que je te montre l'arrivée de Luna et voilà, pourquoi c'est mon personnage préféré, parce que voilà, c'est vraiment, c'était le petit la petite étincelle.
Ça aura peut-être un peu mal vieilli quand même, hein. Ça aura peut-être un peu mal.
Mais non, je les ai refait pendant le confinement, j'ai refait les 400 premiers, je crois, pendant le confinement, parce que c'était les seuls qui étaient disponibles sur Amazon Prime, et j'ai refait tout mais pas tant que ça, figure-toi, pas tant que ça. Bon, on voyait quelques micros parfois dans les plans, mais à part ça, c'était quand même plutôt pas mal. J'étais très content en tout cas de retrouver ces épisodes. En parlant de Luna, j'ai eu la chance de rencontrer Anne Dessy, du coup, de pouvoir l'interviewer sur son parcours et son passage dans Plus belle la vie. Et ben, je vous propose d'écouter cette interview. Bonjour Anne Dessy, vous incarnez Luna dans Plus belle la vie depuis 2004, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Mais merci à vous de m'accueillir sur votre podcast.
Alors, pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivée dans Plus belle la vie, comment s'est passé le casting, etc.
À l'époque, ça ne s'appelait pas Plus belle la vie, ça s'appelait Mistral gagnant. Je me souviens, j'avais vu passer un appel à audition. J'avais envoyé un CV, j'avais pas vraiment une nouvelle. Et puis, j'allais faire le Festival d'Avignon et j'ai été contactée. Mon agent m'a dit, mais écoute, ils ont bien envie de te rencontrer, mais c'est juste pour passer un essai comme ça. Et là, ils ont tous leurs personnages pour commencer. Et si un jour, ils cherchent d'autres comédiens, éventuellement, ils regarderont dans cette banque de données, en gros. Vous voyez, donc c'était très, très vague. Et puis très vite, ils m'ont rappelé pour faire le personnage de Luna, mais j'étais trop jeune par rapport au personnage. Et puis j'ai fait quand même un essai, un deuxième essai. Après, je suis partie travailler en Écosse. Et là, je me souviens, la directrice de casting, Randy Saron, à l'époque, m'appelle et me dit « Écoute, il faut que tu redescendes, ils veulent te revoir encore une fois. » Je dis « Bon, bah, très bien. » Et elle me dit « Bon, le truc, c'est celui qui fait ton fils. Il est trop âgé pour être ton fils et toi, tu es trop jeune pour être sa mère. » Et en fait, Ambroise et moi, on n'a que 7 ans de différence. Donc, voilà. Donc après, ils m'ont appelé en septembre, ils m'ont dit « Bah, ok, c'est toi. » Et j'étais très contente. Mais j'étais partie pour 6 jours de tournage à la base. Hein.
Effectivement, votre personnage ne devait pas intégrer le casting principal au début, c'était juste une petite intrigue parallèle. Et puis devant la popularité de ce personnage, justement, vous avez intégré la distribution principale. Comment vous l'avez vécu?
Très bien. Après, nous, au départ, quand on a commencé, c'était... c'était on avançait au jour le jour, vous voyez, tout le monde avait très à cœur, très envie que ça fonctionne, que ça marche, mais c'était encore des petits scores, un faible audimat, et puis c'était passionnant parce que on a vu les équipes se transformer, l'écriture évoluer, le dispositif de mise en scène et de réalisation changer aussi. Donc c'était génial parce que on a d'assister à l'essor d'une nouvelle série quotidienne. Enfin, c'est même pas une nouvelle série parce qu'à l'époque, on était les premiers, on était les seuls. Donc ça se faisait pas encore. On avait un pôle d'auteurs aussi un peu comme à l'américaine à l'époque, ce qui maintenant est presque commun en France, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc c'était un moyen de produire qui était assez novateur en France, et c'est assez passionnant en tant que comédien d'assister à ces débuts-là.
Est-ce que vous arrivez à identifier en fait le moment où Plus belle la vie est vraiment devenu un véritable phénomène ? Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y a une intrigue spécifique où vous sentez que ça a basculé ?
Bah, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est début 2005. Début 2005, on a senti une montée en puissance dingue.
L'époque du corbeau, peut-être ?
Oui, alors déjà, avec Mathilde Lebréquier, je me souviens de cette comédienne qui joue le rôle d'Alice. C'était la première méchante. Donc là, les intrigues ont commencé à se tendre, parce qu'au départ, c'était Rachel qui avait perdu ses clés. Donc les premiers épisodes, c'était pas passionnant. Je me souviens, j'avais vu un épisode, je m'étais dit « Ouh là là, qui ça passionne ?» Et puis très vite, voilà, ils ont mis du suspense. Les personnages, alors ça, c'est vraiment pour moi une des clés de la réussite de ce feuilleton, c'est que il y a eu des personnages les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Tout le monde pouvait s'identifier à nous avec des parcours très différents. Et en même temps, on vivait des choses complètement folles et dingues. Et en même temps, on traitait de l'actualité du jour. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des intrigues sociétales, comme on les appelle. Et ça, c'est super parce que les gens s'identifient, comprennent. Et un des grands succès de la série, c'est d'avoir toujours été en réactif. C'est-à-dire qu'on prend toujours cet exemple parce qu'il est emblématique. Mais il y en a eu plein d'autres. C'est vrai que quand il y a eu le mariage pour tous autorisé en France... Plus belle la vie, un mois après, était la première fiction à le traiter sur le plateau. Donc ça, la réactivité étant assez dingue, c'est un vrai terrain de jeu et d'expérimentation pour tout le monde, en fait.
En parlant des intrigues, est-ce qu'il y a une intrigue qui vous a particulièrement marqué concernant votre personnage ?
Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais je dirais que la principale, je retiens surtout les gens avec qui j'ai travaillé. Que ce soit donc Ambroise effectivement et Sylvie Fleb qui joue le rôle de ma mère, Virgile Belge le rôle de Guillaume, Avi Marciano le rôle de Sacha, parce que c'est vraiment voilà, des gens avec qui j'ai adoré travailler, et Avi, je suis toujours très amie avec lui. Et puis le handicap, la paraplégie, ça c'était plus récemment, on a traité ça pendant 2 ans, et ça a été passionnant parce que c'est, encore une fois, c'est la seule fiction en France qui vous permet de vous plonger dans le thème du handicap pendant 2 ans. D'habitude, sur une fiction, ça dure quoi, 90 minutes ou un 6 fois 52 minutes. Mais là, on a pu vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'est-ce que la sexualité pour une femme qui est en fauteuil, qu'est-ce que c'est se réapproprier une féminité, le monde du travail, comment la reconquête de soi, les étapes qu'on peut passer quand on est face à une épreuve pareille, le déni, la colère, la tristesse, le chagrin, et puis qu'est-ce qu'on va mettre en place, quels sont les appuis autour de soi pour repartir à la reconquête de soi, en fait. Donc ça a été passionnant à faire pour moi, c'était génial. Et c'est Plus belle la vie permet ça aussi.
Ça fait 18 ans, du coup, que vous incarnez Luna. C'est long pour incarner un personnage. Vous êtes Luna pour beaucoup de Français. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est compliqué parce que j'ai encore été dans le guidon, si je puis dire. Donc j'ai du mal à pouvoir prendre du recul et vraiment analyser les choses. Mais on m'a souvent posé la question. Et Luna, c'est comme un double pour moi. C'est moi sans être moi. Parce que c'est vrai que les auteurs s'inspirent énormément de ce que chaque personnage, chaque comédien dégage à l'image. L'énergie, notre façon de parler, tout ça infuse vraiment, même inconsciemment, les auteurs. Donc, y a beaucoup de moi, forcément, dans ce personnage-là, même si les choix qu'elle peut faire, il y en a plein que je ne pourrais absolument pas faire. Mon personnage, je pense, est beaucoup plus courageux et vaillante que moi. Mais c'est comme un double pour moi. C'est-à-dire que je ne rentre pas en me disant « Mon Dieu, je suis encore Luna », mais pas du tout. C'est pas... Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire. Je quitte ce personnage comme ça, en fait. Vous voyez, c'est comme un double pour moi. Mais je suis très attachée parce que j'ai un personnage génial à jouer. Génial. je suis pas du tout dans le bon sentiment. Je suis pas en train de dire « Oh, ben, la guerre, c'est pas bien. Mon Dieu, c'est terrible. » Vous voyez, je suis beaucoup plus rock'n'roll que ça. Et j'aime beaucoup les personnages qui sont pas conventionnels. Et là, je suis servie avec mon personnage. Donc, c'est un cadeau.
C'est ce que j'allais dire. On sent un petit peu une pointe d'admiration de la part d'Anne envers Luna.
Oh, ben, je pense que ce que les gens aiment dans mon personnage, c'est ça. Tout le monde, d'ailleurs, les gens, comme vous dites, quand on me rencontre, il y a beaucoup de gens qui me regardent, genre, mais est-ce qu'elle va être comme Luna, en fait? Et je pense que les gens projettent beaucoup de choses formidables en moi, et je suis certainement pas à la hauteur de ce que les gens imaginent que je suis, mais voilà, c'est comme ça.
Alors, la fin de la série a été actée, annoncée officiellement désormais. Comment vous appréhendez la fin du programme de votre côté?
Bien, écoutez, c'est compliqué ça aussi d'y répondre, parce que là, j'ai encore la tête dans le guidon. J'appréhende, je suis assez sereine. Écoutez, je suis pas en colère parce que moi j'ai toujours considéré que c'était... Je suis rentrée dans cette série pour 6 jours, comme je vous ai dit, donc pour moi c'est du temporaire qui dure. Bon, ça fait 18 ans que ça dure, mais je me suis toujours préparée à cette fin. Alors soit moi qui partirais ou soit la série qui s'arrêterait. Mais je pensais pas que ça arriverait parce qu'il y a tellement d'exemples de séries qui cartonnent sur 20, 30, 40 ans dans d'autres pays. Je me disais, Plus belle la vie, c'est quelque chose de tellement fort, c'est tellement inscrit dans... Enfin, on le voit de la part des téléspectateurs, c'est tellement un programme important pour eux que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette volonté politique. Donc certainement, j'ai été très surprise. Maintenant, bien sûr, il va y avoir un chagrin immense de tout se quitter parce que vous imaginez bien, en 18 ans, on crée des liens incroyables avec l'équipe. D'ailleurs, maintenant, on entame les semaines où on commence à dire au revoir à certains qui finissent leur session. Et ça commence à être très... Il y a beaucoup d'émotions maintenant au quotidien. Mais on est tous dans la joie de finir ce programme ensemble. Donc on a tous très à cœur de profiter de chaque seconde, de chaque minute, de chaque séquence. Et les petits agacements quotidiens qu'ils peuvent y avoir, comme partout, comme pour tout le monde, eh bien là, ils prennent une saveur un peu différente où ça, c'est plus léger parce qu'on sait que c'est bientôt fini. Et on n'a qu'une envie, c'est de faire plaisir au public qui nous a tellement... Suivi, soutenu, aimé, porté, le feuilleton et nous tous, qu'on a vraiment, tout le monde a très à cœur de les surprendre, de leur faire plaisir. Et moi qui connais certaines choses pour les semaines à venir, je pense qu'ils ne vont pas être déçus.
Vous ne pouvez rien dire, évidemment.
Eh bien non, c'est la grosse blague. Mais déjà, avec ce prime, là, le 5 juillet de retrouvailles, déjà, il y a quand même quelque chose... C'est un prime qui est là aussi pour faire plaisir au public parce que ce sont des retrouvailles avec des personnages emblématiques de la série qui ont plu à certains. Donc nous-mêmes, on était tellement heureux de se retrouver pour ceux qui ont pu y participer que c'est déjà une forme de cadeau pour le public parce qu'ils vont avoir la joie de retrouver certains personnages.
À l'image, le Mistral, c'est aussi un peu comme une grande famille. C'est quelque chose qu'on retrouve, j'imagine, aussi derrière les caméras.
Ah oui, bah complètement. Ben, vous imaginez, en toutes ces années... Alors, c'est marrant parce que Ambroise me disait avant-hier, celui qui joue le rôle de mon fils, que lui, il n'était pas venu tourner depuis 10 ans et qu'il a retrouvé certains techniciens avec un peu plus de rides ou de cheveux blancs. Alors, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent. Mais voilà, on a eu des enfants. Certains ont eu des épreuves, il y a eu des maladies, il y a eu des deuils. Il y a eu des joies, certains sont mariés, il y a eu énormément de couples et de bébés dans Plus belle la vie, à force de se croiser au quotidien. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que même les personnes qui ont intégré cette aventure depuis 6 mois ou 1 an, que ce soit les comédiens ou les techniciens, parce qu'il y a toujours des nouveaux, ils comprennent cette ferveur qu'il y a entre nous. Ils l'aperçoivent parce que cette série a cette réputation qui... Chaque comédien qui passe sur Plus belle la vie, il n'y en a aucun qui a très envie de partir parce que on peut avoir peur d'arriver dans une série, c'est un truc fleuve comme ça qui existe depuis tellement longtemps. Je comprends qu'on puisse avoir peur un peu de l'effet rouleau compresseur quand on débarque dans cette aventure, mais il y a une telle politique d'accueil justement chez nous que les gens comprennent très bien l'affect qui existe en fait.
Vous parlez justement voilà, du rythme, du côté rouleau compresseur, de la grosse machinerie que c'est d'un feuilleton quotidien, du coup, de 20 minutes. Être tous les soirs, justement, est-ce que c'est une aubaine ou un carcan pour une comédienne?
Bah écoutez, on peut percevoir ça en pensant les deux. Pour moi, ça a été une aubaine parce que ça a été un terrain de jeu incroyable et d'expérimentation. En tant que comédienne, j'ai fait tellement de choses que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire dans d'autres fictions. Même si je fais beaucoup de théâtre à côté, au théâtre on a le temps d'expérimenter plein de choses, mais le travail à caméra est très différent. Ça a été Ça a été un moment incroyable. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir eu cette chance de 18 ans, ce personnage-là, et de travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et certainement que oui, sûrement, ça m'a sûrement fermée à certaines autres choses. Mais de toute façon, à partir du moment où on fait un choix dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Prendre un chemin, c'est renoncer à d'autres choses, dans quelque domaine que ce soit. Donc moi, ça ne me pose aucun problème parce que c'était mon chemin et je ne suis pas du genre à me dire « et si j'avais fait ça, si j'avais fait ça ?» Non, je l'ai fait. Ça m'a rendue très heureuse et ça m'a peut-être coupé d'autres choses. C'est vrai que ça a pu m'arriver de dire non à certains projets parce que j'étais trop présente dans la série et j'avais pas, à certains moments, j'ai pas eu la possibilité de mener tout de front. Mais ça m'a donné accès à plein d'autres fictions aussi. J'ai pu participer à d'autres fictions, peut-être plus facilement que si je n'avais pas fait ce programme-là. Je vous donne un exemple. J'ai eu le rôle d'une méchante dans une fiction sur un film réalisé par Jean-Louis Lorenzi. Et lui, il m'a repéré parce que j'avais fait Fort Boyard. Et la hargne que j'avais mis en faisant cette émission-là, il s'est dit « Tiens, je tiens peut-être ma méchante ». Donc vous voyez, les choses, c'est un peu mystérieux pour la façon dont elles se font, quoi. Mais je n'ai aucun regret.
La série a été critiquée en dépit de son succès, notamment dans les débuts principalement, comme on en parlait. Est-ce que vous, ça vous a atteint ?
Mais pas du tout. Non, mais alors, vous savez, c'est comme les gens qui me disent « Je suis désolée, je ne regarde pas ». Mais moi, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, on a le droit d'aimer, de ne pas aimer, d'être critique. La critique, elle est intéressante quand elle est constructive. Moi-même, nous-mêmes, on peut l'être vis-à-vis de cette série. Moi, ça m'est arrivé de ne pas apprécier... certaines intrigues ou de moins les aimer que d'autres. Et puis, c'est parce qu'il y a des critiques que du coup, on se remet en question et qu'on évolue. Et Plus belle la vie a énormément évolué. Je prends juste un exemple, le choix des caméras, quand on est passé à la HD, dans les contraintes techniques, à chaque fois, la première fois qu'on utilise un drone, la première fois qu'on a utilisé un écran à LED plutôt qu'un fond vert. Si vous voulez, il faut qu'il y ait une émulation, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait des critiques pour se remettre en question et évoluer. Et nous-mêmes, les comédiens, il faut qu'on se remette en question régulièrement. Moi, ça ne me pose aucun problème. On a le droit de détester ce programme, ça ne me pose aucun problème. Je ne me remets pas en question. Et évidemment, si quelqu'un me dit « je vous déteste », c'est sûr que ça ne va pas me faire plaisir. Mais ça ne... les gens font ce qu'ils veulent et pensent ce qu'ils veulent.
Si on s'éloigne un petit peu de Luna Torres, du coup, si on veut retrouver Anne Dessy en dehors de Plus belle la vie, c'est où et ce sera où une fois que le feuilleton sera terminé?
Alors, écoutez, là, je m'apprête à jouer au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet au théâtre Le Grand Pavois à 20h20 tous les soirs, sauf les mardis, avec Avi Marciano d'ailleurs qui faisait le rôle de Sacha. Nous sommes quatre sur scène avec si Didier Landucci des Bonnie Menteur et Nelly Béchitoile. On va jouer à mort. Et puis, on a une tournée qui démarre en octobre. Voilà, j'ai aussi une marque de bijoux avec Aurélie Vanet qui joue le rôle de Ninon, qu'on retrouve aussi dans le Prime. Et puis, voilà, écoutez, je compte aussi sur mon agent pour travailler sur d'autres projets. Mais je suis bien occupée déjà.
Merci beaucoup, Anne Dessy.
Merci à vous.
Et voilà, merci beaucoup à Anne Dessy d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci à vous, les gars.
On se retrouve très bientôt pour un nouveau plateau série. Du coup, Anaïs, j'espère que tu as des petites idées pour la prochaine série.
Il y en a plein, il y en a plein. C'est infini, les séries à regarder. Il y en a beaucoup trop.
Et merci beaucoup, Tony. Merci, Tony, l'encyclopédie de Plus belle la vie.
merci à vous, c'était assez sympa. Et maintenant, bon, j'espère qu'on va pas trop me faire remarquer que je regarde Plus belle la vie.
Faut assurer
les gens t'arrêteront dans la rue.
Et moi, je suis partant s'il y a d'autres séries. Je sais pas si vous avez prévu un épisode sur Breaking Bad ou Better Call Saul, mais c'est deux séries que j'affectionne particulièrement.
T'essaies de redorer ta réputation, c'est ça? Ah là là, merci beaucoup en tout cas, Tony. À très bientôt. Salut à tous.
Salut.
Allez. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.